que j'aime en poser des questions par, en envoyant des courriels. Pour, donc j'ai une question auquel je vais donner une réponse ce matin. Une question était, est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien peut prophétiser? Donc je me lance tout de suite dans le sujet. Dans Jean chapitre 11, verset 50. Nous lisons ceci. C'est Caïphe qui parle. Et on va lire juste verset 49, pardon. 11-49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour nous, vous, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Je ne pense pas qu'on peut considérer que Caïphe était né de nouveau, qu'il était un disciple de Jésus. Donc, il y a des exceptions, comme avec Balaam, il y a Solanès qui a prophétisé. Donc, je ne sais pas s'il y a des ânes au milieu de nous ce matin. On va vous tirer les oreilles si c'est le cas. Mais il y a des exceptions à tout. Et je pense qu'il y a des gens qui ont une perception des choses dans le monde, qui peuvent apporter des choses qui correspondent à ce que Dieu veut faire. Dieu a utilisé des rois autrefois. D'ailleurs, il a utilisé le pharaon. Je ne sais pas si vous comprenez le pharaon, quand Joseph est venu donner l'interprétation de ses rêves à lui, dans le livre de la Genèse, il est venu donner l'interprétation en disant « Il y aura 7 années d'abondance et après il y aura 7 années de disette. » Et le pharaon a eu la foi pour nommer cet homme à la 2e position, c'était premier ministre, dans son royaume pour gouverner le pays. Au début. Et pendant les 7 années, il a engrangé. Je me suis demandé à un moment si le pharaon, pendant la 8e année, se disait est-ce qu'il a dit vrai ou pas? Est-ce qu'il a... Parce qu'il a eu confiance en lui, il a mis sa confiance en lui. Le pharaon a permis à Joseph d'être à cette position-là, que normalement, il ne devrait pas être là, il s'est trouvé en prison. Donc je pense que Dieu peut utiliser des gens d'une manière transitoire, d'une manière périodique, pour faire des choses. Mais la plupart du temps, quand on parle de questions de don de l'esprit, de prophétie, c'est de guérisons et d'autres choses, on parle de ce qui se passe par les enfants de Dieu, qui parlent par ceux qui sont nés de nouveau. Et je pense que la chose la plus importante, c'est de savoir qu'on est né de nouveau. On a chanté ça, Jésus est mort pour nous. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que les quiconques, j'espère que vous êtes un quiconque ce matin, soient sauvés et qu'il y ait la vie éternelle. Et l'essentiel, c'est ça. Après ça, il y a d'autres choses dans notre vie. Le Saint-Esprit est très important parce que nous sommes nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12, n'est-ce pas? Et quand Jésus parle avec Nicodème, il parle de naissance par l'Esprit, né d'en haut. Donc, nous sommes tous nés du Saint-Esprit. Même si vous pouvez en dire, mais nous ne savons pas comment ça s'est fait. Nous ne savons pas comment Jésus a été conçu. Mais Jésus a été conçu parce que le Saint-Esprit est venu sur une jeune dame. C'est extraordinaire cette histoire de Marie, n'est-ce pas? Nous, on nous accuse, les protestants, de ne pas croire en Marie. Moi, je crois en Marie, comme je crois en Paul, comme je crois en Moïse, comme je crois en Abraham. Mais elle n'est pas intermédiaire entre moi et Dieu. Mais je crois en Marie. Et je pense que quand l'ange est venu parler à Marie, il n'est pas venu en disant, écoutez, mademoiselle, nous sommes en train de faire une enquête pour savoir si vous serez candidate éventuellement d'être mère porteuse. L'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte et tu seras enceinte de l'Esprit et tu porteras celui qui est fils de Dieu. Même la conception, on en a parlé hier, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit hier, Jésus au moment de son baptême, le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe. Ça ne veut pas dire que c'est une colombe qui était là, c'est une forme. Et le Saint-Esprit était là entre les deux, entre le Père qui parle dans le ciel, la voix qui vient du ciel, cette même voix qui est venue plus tard, qui était sur la montagne de la Transfiguration. Vous vous rappelez quand Pierre est en train de parler et Dieu a parlé en disant « Voici mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ». Trois fois dans la vie de Jésus, une voix s'est fait entendre du ciel. Mais cette fois-là, il y a le signe, la forme de l'Esprit entre les deux. Donc nous ne pouvons pas faire l'économie du Saint-Esprit. Parce que si nous faisons l'économie du Saint-Esprit, comment pouvez-vous porter le fruit de l'Esprit? Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité ou la foi et la maîtrise de soi. Ce n'est pas les fruits de l'Esprit. Vous noterez bien, c'est le fruit de l'Esprit. C'est un ensemble. On peut dire, oui, j'ai l'amour, mais je n'ai pas vraiment la maîtrise de soi. Non. Si le fruit est produit dans notre vie, elle n'est pas la production de notre personnalité, du fait qu'on est plus saint. On peut être très saint et vivre des moments où on ne porte pas le fruit de l'Esprit. On peut être même dans une dimension de révélation et faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Jean, dans l'Apocalypse, si vous voulez lire, je crois que c'est le chapitre 21, il a eu l'ange qui parle avec lui. Et Jean, il s'est mis à adorer l'ange. C'est contre le premier commandement. Tu n'adoreras pas d'autres. Et Jean, le grand apôtre, l'apôtre qui a connu des choses, qui a écrit des choses extraordinaires, là, il s'est mis à adorer un ange, c'est-à-dire un messager de Dieu. C'est pour ça, dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne devons pas adorer les messagers de Dieu. Que ce soit les prédicateurs, que ce soit les conductrices de louanges ou d'autres, nous ne devons pas les adorer. Ce n'est pas pour vous, moi j'adore pas le fromage, moi je le mange. Surtout le Saint-Nectaire. Ça fait plaisir de passer par Saint-Nectaire. Pourtant, je n'ai rien senti. Et Jean s'est mis à adorer l'ange. Et l'ange a dit, garde-toi de le faire. Et deux fois dans l'Apocalypse, Jean, c'est un homme qui avait connu, qui était celui qui a vécu l'intimité avec Jésus, celui qui a vécu cette proximité. Il n'est pas dit, par exemple, dans l'évangile de Jean, que c'est Jean qui l'a écrit. Il n'est même pas nommé dans son évangile. Il est connu comme les disciples que Jésus aimait. Est-ce que ça veut dire que lui, il aimait Jésus plus que les autres? Moi, j'ai toujours traduit, au début de ma vie chrétienne, que Jean, il aimait le Seigneur plus que les autres. Que la réalité, c'est pas dit ça, c'est les disciples que Jésus aimait. Est-ce que ça voulait dire qu'il n'aimait pas les autres? On peut comprendre avec certains que Pierre est un peu casse-pied quand même. Il était toujours en train de faire des bêtises. Ça, je ne ferai pas, il a fait, ne me lave pas les pieds, non. Mais tout entier, Pierre était en train de... Et on peut comprendre que Jésus avait du mal à aimer certains de ses disciples. Thomas, c'est pas, non, si je vois pas, si je mets pas mes doigts. Thomas qui disait à un moment, ah, allons mourir avec lui, dans Jean 14. On peut comprendre que Jésus avait... Non, il n'y avait pas de préférence dans l'amour que Jésus avait pour ses disciples. La simplicité du fait que Jean était le disciple que Jésus aimait, c'est que Jean était capable de recevoir l'amour. Et nous devons être capables de recevoir l'amour. Et tous les chicanes que nous mettons dans notre vie pour empêcher l'amour d'arriver jusque nous, autant ces choses, les ralentisseurs et toutes ces choses qui empêchent l'amour de venir pleinement en nous. Ne soyons pas comme une bouteille sous la pluie, mais soyons plutôt comme une assiette sous la pluie, qui a la même capacité, mais qui a une plus grande capacité à recevoir. Et quand on parle de l'Esprit Saint, on a, je l'ai dit et je redis, on peut être né de l'Esprit, on peut porter le fruit de l'Esprit et ne pas vouloir exercer les dons de l'Esprit. Que ça soit clair, c'est notre salut ne dépend pas du nombre de dons que nous exerçons. Notre salut dépend uniquement par la grâce de Dieu. C'est point par les œuvres, dit Paul dans Éphésiens, c'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc ce n'est pas parce que nous avons fait un effort, ce n'est pas parce que nous avons compris la Bible, parce que nous étudions la Bible, ce n'est pas parce que nous faisons du bien, ce n'est pas parce que nous donnons notre bien aux autres, si nous n'avons pas l'amour, tout ça c'est... Et l'amour c'est de recevoir le don que Dieu a donné. Donc même si nous avons chuté, même si nous avons fait des compromis dans notre vie, moi je crois que Dieu est celui, c'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de réconciliation. C'est un Dieu même de résurrection. Vous qui êtes spirituels, redressez-les, il dit à Timothée. Redressez ceux qui ont chuté. Faut pas les... Quelqu'un dit que l'armée de l'Éternel, c'est la seule armée où on achève les blessés. Que si quelqu'un s'éloigne de la foi, ça y est. Fini. S'il a commis l'adultère, s'il a pris la caisse de l'église et puis il est parti, j'espère qu'il ne va pas le faire, il est irrécupérable. Non, redresser, relever. Combien de fois, vous et moi, nous avons péché depuis que nous sommes nés de nouveau? Une fois, peut-être. Mais Dieu est le Dieu de pardon. C'est extraordinaire ce mot grâce dont vous avez parlé tout à l'heure. Dieu ne nous a pas graciés. Le président de la République, je ne sais pas s'il va le faire cette année parce qu'il y a des élections qui viennent, mais il peut gracier des condamnés. Mais leur casier judiciaire ne devient pas vierge. Ils sont graciés, mais quand Dieu nous a fait grâce, la parole dit qu'il a effacé nos péchés, il les a éloignés de nous aussi loin de l'est que l'ouest, il ne tient plus compte de notre faute. C'est pas nous sommes devenus avec un casier judiciaire céleste qui est vierge. Moi je bénis Dieu qu'il a dit que c'est de l'est à l'ouest, et pas du nord au sud. Parce que si vous allez vers le nord, un jour vous arrivez au nord. Mais si vous allez vers l'est, vous n'arriverez jamais à l'est. Vous allez toujours vers l'est. Vous allez toujours. Donc c'est très loin. Et Dieu nous donne des choses qui montrent que c'est un amour pour nous. Mais Dieu nous a donné à pouvoir vivre par l'esprit. Donc il y a deux livres que je peux vous conseiller à voir. Mais je sais qu'un est épuisé, donc c'est trop difficile. Si vous voulez creuser un peu le sujet, il y a deux livres. Il y a d'autres livres qui existent qui disent qu'il n'y a plus des dons. Mais bon, si vous voulez lire, lisez-les. Mais moi, je préfère ces deux livres-là. Il y a le livre de Luc Maroni, qui est pasteur à l'église de Lens, dans le Pas-de-Calais. Un héritage à conquérir. La prophétie, un héritage à reconquérir. Et deuxième livre, c'est par un nommé Steve Thompson. Vous pouvez tous prophétiser. Et c'est l'édition Aigle qui fait ça. Donc, si vous voulez les coordonnées, après, je vous les donne. Donc, ce qui concerne les dons spirituels, on a pris le passage hier, donc 12, 13 et 14. Et pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc on va lire le chapitre 12, 1 Corinthiens 12, versets 1 à 6. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. Est-ce que vous trouvez que nos concitoyens ont leurs idoles aujourd'hui? Hein? Que ce soit Zizou ou que ce soit à d'autres, ils ont leurs idoles, non? De plus en plus. Le matérialisme amène à une idolâtrie qui pousse les gens. Donc, ça peut nous concerner encore. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, si par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est un anathème, et nul ne dit, peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais même esprit. Diversité de services, le mot service c'est du diaconat, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et puis, il donne la liste des dons spirituels. La manifestation, qu'est-ce que dire la manifestation? Nous sommes très forts en France pour les manifestations, n'est-ce pas? Si vous donnez une rose à la personne que vous aimez, est-ce que cette rose-là est amour? Non. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue la manifestation de ton amour. Donc pour moi, la manifestation, c'est le rendre visible. Donc le rendre visible de l'esprit, c'est quoi le rendre visible de votre esprit? Comment est-ce que vous rendez visible votre esprit? Par votre corps. Il y a le langage du corps, n'est-ce pas? On peut montrer que, sans rien dire, le langage du corps, il y a le langage par les paroles. L'esprit s'exprime à travers le corps, à travers nos gestes, à travers nos paroles. Donc la manifestation de l'Esprit de Dieu se manifeste à travers le corps du Christ. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant que l'Église est appelée le corps de Christ et pas le corps de Jésus. Christ qui n'était pas un mot hébreu quand même. Christos. Qui veut dire, le mot Christ veut dire oint. Donc nous sommes le corps du oint. L'onction. Donc, la manifestation de Dieu se fait par nous, par le corps de Christ, tout le corps de Christ. Que vous le voulez ou non, si vous faites partie du corps, Dieu va se manifester à travers toi. Que les autres le veulent ou pas, Dieu va se manifester à travers toi. Parce que tu fais partie du corps de Christ. Sauf peut-être si vous dites « je suis des chars dans la chair ». Donc, si vous êtes les chars dans la chair, vous n'êtes pas vraiment partie du corps. Donc, la manifestation, le rend visible de l'esprit est ici donné par la question des dons spirituels. Et il donne ces 9 dons. Je ne pense pas forcément que cette liste soit exclusive. Parce que Paul, comme j'ai dit hier, est en train de répondre à des questions qu'on lui a posées. Et pourquoi il insiste sur 2 dons en particulier? Il parle de guérison, il parle de dons de foi, il parle de dons de miracles, il parle de dons de discernement des esprits, mais il parle aussi de dons des langues et de dons de prophétie. Pourquoi il parle plus de ces 2 dons-là? Parce que c'est eux qui posaient le plus de problèmes. Quelqu'un m'a dit, dans des questions qu'on m'a posées, pourquoi dans certaines églises, il n'y a pas de manifestation des dons? Je vous donne ma réponse à moi. Chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Chapitre 14, verset 1. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Chapitre 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Si on n'aspire pas à quelque chose, est-ce qu'on va l'avoir? Certains n'aspirent pas parce qu'ils disent, mais ça, bon, c'est pas la peine. Parce que, on prend le verset qui dit ceci, j'oublie de noter le verset. L'Esprit donne à chacun comme il veut. Ah, c'est dans le chapitre 12. Vous m'aidez dans mon ignorance qui est devant tout le monde. Hein. Mais verset 11, pardon. Un seul même Esprit opère toutes les choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et quelqu'un m'a dit, mais si l'Esprit Saint ne veut pas les donner, je ne les aurai pas. Je vous pose la question, quand vous vous êtes converti, quand vous avez choisi Jésus-Christ, c'est parce que vous l'avez voulu. Mais est-ce que Dieu a voulu que tu sois sauvé? Mais est-ce que c'est parce qu'il a voulu que tu sois sauvé qui t'a obligé de te convertir?
Si on dit Dieu veut que tout soit sauvé, mais si on dit le Saint-Esprit donne à qui il veut, mais si vous n'inspirez pas, il ne va pas vous le donner forcément. Mais moi je prends les dons spirituels ne sont pas des choses que vous avez en permanence avec vous. Le fruit, c'est quelque chose qu'il faut porter en permanence. Même si c'est juste en gestation. Un arbre qui ne porte pas de fruit, on coupe. Hein? Mais si Dieu vous porte du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Jean 15. Hein? Là, le cèpe qui ne porte pas de fruit, il est monde. Hein? Et le cèpe qui porte du fruit, il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, on va passer de toute façon. Qu'on porte du fruit ou qu'on ne passe pas, on va passer par là. C'est juste pour nous consoler. Donc, les dons spirituels sont des outils. Ce n'est pas des gadgets. J'ai un ami pour qui j'ai beaucoup d'affection, je ne donnerai pas son nom, qui disait que les dons n'existent plus. Ça n'enlève pas le fait qu'il est chrétien. Il est encore chrétien. Et j'ai parlé avec lui. Et c'est un homme qui lit, quand il lit sa Bible, il a le Nouveau Testament en grec. Il le lit en grec et il le parle en français. Donc il a une connaissance biblique qui est beaucoup plus profonde et plus large que moi. Il fait ça. Et j'ai parlé avec lui, il m'a dit, mais André, des gens comme toi, vous vous croyez supérieur. Ah, j'ai dit, non, pas du tout. Pas du tout. En aucune manière. J'ai dit, toi, tu es peut-être plus proche du Seigneur, toi, que moi. Tu as une vie peut-être plus sanctifiée que la mienne. Mais je lui ai dit, mais ce que je fais, c'est que Dieu met à ma disposition des outils. Et moi, je suis prêt à les utiliser. Que toi, tu dis, non, ces outils n'existent pas, donc je vais faire mon travail pour Dieu sans les outils. Tu dis, un bon ouvrier avec des bons outils fait meilleur travail qu'un bon ouvrier avec des mauvais outils. Mais un mauvais ouvrier avec des bons outils, il ne fait pas forcément du bon travail. Le problème n'est pas dans les outils qu'on a, mais dans la manière de les utiliser. C'est comme l'autorité. On peut exercer l'autorité pour faire le bien. Mais combien de nous ont souffert par les gens qui ont exercé l'autorité sur nous d'une manière injuste. Et nous avons souffert à cause d'une mauvaise utilisation de l'autorité. Ça n'enlève rien à l'autorité, mais ça remet en question la personne qui l'a exercée. Et quand Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, là c'est le deuxième passage qui parle de 1 Thessaloniciens 5. J'aime bien lire ce passage parce que verset 16. Soyez toujours en train de râler. Ça, c'est la version française. Soyez toujours joyeux. Amen. On va être joyeux. On va vivre avec la joie de Dieu en nous. Parce que c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de nos circonstances. Si ma joie dépend de mes circonstances, c'est une joie circonstancielle. Mais si ma joie dépend de Dieu, comme Dieu est en permanence en nous, en moi, cette joie est là en abondance. Même si elle ne s'exprime pas de la même manière. Quand on passe par des moments de souffrance, des moments de deuil, des moments de tristesse, ça n'enlève pas la joie qui est là au fond. Mais combien de nos concitoyens ont vraiment la joie aujourd'hui, à part les Lillois? Parce qu'ils ont battu Paris Saint-Germain hier. Et combien ont vraiment la joie dans leur cœur? Est-ce que soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Ça veut dire qu'il faut fermer les yeux. Non, non. Vous savez, nous faisons des choses qui ne sont pas bibliques. Il n'est jamais dit dans la Bible de fermer les yeux pour prier. Montre-moi un verset. Mais il est dit de lever les mains. Il est dit de se prosterner. Il est dit de se mettre à genoux. Mais si jamais quelqu'un, dans l'église où j'ai connu le Seigneur, dans l'église presbytérienne à Glasgow, si quelqu'un levait les mains, tout le monde... Mais donc moi, comme j'étais jeune converti et comme j'ai connu la dimension de l'esprit, quand je chantais, je prenais mon cantique comme ça. Un peu hypocrite, mais je levais mes mains quand même. Il est dit dans la Bible de lever les mains en louant Dieu. Mais il n'est jamais dit de fermer les yeux. Mais je ferme les yeux quand je prie. Et vous aussi. Sauf quand je conduis la voiture. C'est fortement déconseillé. Moi, j'ai mon fils qui était avec des amis dans une camionnette. Il faisait des évangélisations avec une équipe de musique. Et lui, il conduisait la camionnette tant qu'il était là et les autres étaient assis de lui. Il a dit « Prions ». Et il a fait ça. Les autres. Non, c'est, donc de prier, à prier par l'esprit, mais prier aussi avec l'intelligence, à prier sans cesse. Ayez en nous cette dimension de communion avec Dieu. Soyons connectés. Nous avons de réseaux avec lui tout le temps. Il est partout, il est mieux que SFR. Il y a un ami qui a fait ça. Il m'a montré son téléphone. Il avait SFR. Et ça montrait une main comme ça. Il a montré une main comme ça. Il a touché, puis ça, c'est SFR. Il a dit, quand je parle avec mes amis, je leur montre ça, la main tendue comme ça. Et puis je tape et dis, SFR, le Seigneur fait le reste. Si vous levez la main, le Seigneur fait le reste. Bon, je ne fais pas de pub. J'ai rien pour Orange. Mais pour... donc, c'est prier sans cesse. Que toute confiance, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et on peut éteindre l'esprit. On en a parlé hier. Mais ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Pourquoi les gens viennent à mépriser la prophétie? Parce qu'il y a des abus. Parce qu'il y a des abus. Des choses qui sont dites comme étant parole de Dieu et qui ne sont pas parole de Dieu. Mais je vous dis une chose, c'est pas parce que les gens mangent trop que je mange plus. C'est pas parce qu'il y a des ivrognes que je bois pas un verre d'eau, un verre de vin avec mon repas. C'est pas à cause des abus des autres. Et j'ai vu ça, et on connaît des gens qui ont souffert à cause des abus prophétiques. Des paroles qui ont été données et qui ont dit, tu seras guéri, tu seras guéri. Tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un enfant. Un cas précis que nous connaissons. Une dame, et puis elle est arrivée à un âge où elle avait besoin d'être opérée. Les organes. Elle était tendue parce qu'elle a eu ces paroles comme quoi elle allait avoir un enfant. Et le médecin a dit, mais si on n'enlève pas vos organes, vous risquez de mourir. Est-ce que cela a aidé? Non, ça lui a donné plus de tension que jamais. D'autres personnes à qui on a dit qu'ils allaient être guéris, ils n'ont pas été guéris. Parce qu'on n'a pas, on a pris la prophétie comme étant parole de Dieu. Les prophéties qu'on peut donner dans les églises ne sont pas, ou par l'église, ne sont pas la même valeur que la parole de Dieu. Aucune manière. Il ne faut jamais les mettre au niveau de la parole de Dieu. Ils sont toujours au conditionnel. Toujours au conditionnel. Parce que autrement, Paul n'aurait pas dit. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes dedans. Autrement, il aurait dit retenir tout. De revenir à 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Si on peut parler, moi j'ai fait une distinction. Clairement entre ce qui est ministère et ce qui est don. Et j'ai fait mention hier de la nouvelle Bible seconde qui donne l'idée que de prophétiser, c'est de parler en prophète. Non, je fais une distinction entre les gens qui ont un ministère de prophète et les gens qui exercent un don de prophétie. Je fais une différence entre ceux qui exercent un ministère de berger et ceux qui prennent soin des autres. Je prends la différence entre ceux qui ont un ministère d'évangéliste et ceux qui évangélisent. Et je fais des distinctions entre les deux, mais quelquefois, on fait l'amalgame. On peut prendre des soins des gens tous les jours, mais ça ne fait pas de nous des bergers du troupeau. Il y a des gens que Dieu a établis, Éphésiens chapitre 4, avec un ministère précis pour ça. Mais Paul dit ici, quand il parle des ministères, il parle des prophètes. verset chapitre 14, verset 29. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et les autres jugent. Donc ça, c'est les ministères. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres... Qui jugent quoi? Tiens, il a prêché sans cravate. Il a même prêché sans chaussettes. D'ailleurs, je ne sais pas si Jésus a demandé à ses disciples d'enlever leurs chaussettes avant de laver leurs pieds. Je ne pense pas qu'ils avaient des chaussettes. Bon. Est-ce qu'en jugeant, c'est jugeant la forme ou le fond? C'est le fond. C'est le fond qui est important. Le fond le plus important. La forme a son importance. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, comment vous le faites? Vous arrivez, vous le jetez et dire, tiens, j'ai acheté ça pour ton anniversaire. Bon, c'est notre anniversaire de mariage. Tu donnes ça. Non, le fond est important, oui. Mais la forme peut avoir son importance aussi. Un peu d'emballage, un bon ruban. Et... ça peut avoir son importance. Mais le plus important, s'il n'y a rien dans la boîte. Et quelquefois, on a tellement mis les choses sur le plan prophétique d'une telle manière qu'on a découragé les gens pour prophétiser. Moi j'en appelle à Glasgow. Donc, je suis d'origine d'Écosse. J'espère que les Anglais qui sont là vont me pardonner. Je ne suis pas responsable de mes origines. Mais je suis responsable de ma destinée. Amen. Ne dis pas, j'étais le vicaire. Non, ce n'est pas ton passé qui est important. Que ce soit un passé simple, un passé composé, que ça soit un plus que parfait. Non, c'est ton avenir qui est important. Rappelle-toi de ça. Tu ne peux pas changer ton passé, tu peux régler ton passé, mais tu peux changer ton avenir. On peut changer notre avenir en obéissant à Christ. C'est très important. Et moi, quand j'étais en Écosse, j'étais en 66, j'étais dans une réunion, une grande réunion, dans une grande salle. Et puis il y a une jeune fille qui s'est levée et disait, moi l'Éternel! Et je regardais et je dis, c'est pas vraiment l'image que j'ai de l'Éternel. Parce que j'étais pas initié à ces trucs-là. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas vraiment... Non, je sais ce qu'elle a voulu dire, mais ça peut décourager les gens. Et moi, j'ai connu l'époque, donc à Glasgow, je continue à Glasgow pour qu'on ne me dise pas que j'ai dit des choses contre les Français, mais c'était à Glasgow, il y avait des gens qui... Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont connu la guerre, la fin de la guerre? Donc vous êtes nés avant 45 ou à peu près. À la fin de la guerre, il y avait des sirènes qui se mettaient en route. Et moi, j'ai vécu l'époque où des gens prophétisaient comme ça. C'est ça, commencer comme ça. Et moi, j'ai dit, non, je ne veux pas prophétiser comme ça. Moi, j'ai dit, c'est non. Et les gens se mettaient en état. Les gens se mettaient en état. Et je dis, on n'a pas besoin de se mettre en état. On a besoin d'être naturel dans le surnaturel. Quand vous apportez l'évangile à quelqu'un, est-ce que vous changez de voix? Est-ce que vous dites, par exemple, vous savez, il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde que qu'il a donné à son Fils un unique, afin que quiconque que croit en lui. » Est-ce que vous changez de voix? Mais c'est la parole de Dieu que vous êtes en train de communiquer, n'est-ce pas? Mais pourquoi on met des choses, et je reviens à ce que j'ai dit hier, certains n'étaient pas là, mais pour moi, les choses que nous allons vivre dépendent de la personne que nous sommes. Et la manière dont nous allons exprimer va être très différente. Je suppose que je m'exprime très différemment que Samuel. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que sa vérité est plus vraie que la mienne, ou la mienne plus vraie que la sienne? Non! La forme est différente, mais c'est à vous de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de l'homme. C'est pour ça que Paul dit pour les prophètes qu'il y a deux ou trois paroles et que les autres jugent. Ils jugent le contenu de la parole pour discerner. Les gens reçoivent une parole, ils vont dans une convention, ils reviennent à l'église et disent « Ah, Dieu m'a dit !» Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec « Dieu m'a dit » Quand nous étions à l'école biblique, Joy et moi, il y a une jeune fille qui partait comme missionnaire, elle avait 29 ans. Elle partait en missionnaire en dessous de sa... Donc elle savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes missionnaires, célibataires là-bas. Puis un jeune de l'école biblique qui est venu la voir. Elle avait 29 ans, il lui avait à peu près 25, 26 ans. Et il est venu le voir et a dit, « Dieu m'a dit que je dois me marier avec toi. » Donc il avait l'appui de l'Éternel. Dieu m'a dit que je dois me marier avec toi. Qu'est-ce qu'elle a dit, la fille? Elle a dit, Dieu m'a rien dit. Un jeune qui vient me voir, il dit, mais Dieu m'a dit que je dois partir en mission. Qu'est-ce que tu penses? Je dis, j'ai rien à dire. Si c'est Dieu qui l'a dit, il faut aller. Mais si tu viens me dire, je pense que Dieu veut que je sois missionnaire. Si tu serais venu en disant ça, j'aurais dit, est-ce que tu as prié à ce sujet? Est-ce que tu l'as partagé avec des gens qui te connaissent? Est-ce que tu es prêt à étudier la culture, la langue? Est-ce que tu es prêt à avoir un groupe de gens qui vont te soutenir dans la prière, te soutenir financièrement? Mais comme tu m'as dit, c'est Dieu qui l'a dit, je ne peux pas te poser ces questions. Je pense que Dieu m'a dit. Moi, je n'ai pas de problème quand je viens à la Bible. Je sais que Dieu l'a dit. Même si je ne suis pas d'accord, il faut que je change. Ce n'est pas la Bible qui doit changer, c'est moi qui dois changer. La Bible le dit. Mais quand c'est une parole prophétique, il faut discerner, il faut examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Parce que, comme nous avons lu hier dans chapitre 13, verset 9, c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est partiellement. Est-ce que nous avons une connaissance de toutes choses? Je dis hier et je reviens. Est-ce que ma connaissance de Dieu, ma compréhension de Dieu, aujourd'hui, est différente d'il y a 20 ans? Pas parce que Dieu a changé, mais parce que ma compréhension de lui a changé. Je la connais mieux maintenant et j'ai encore à le connaître mieux. Jusqu'au jour où il va dire, tu peux monter. Enoch, moi je trouve Enoch extraordinaire. Il marchait avec Dieu, il ne fut plus. C'est-à-dire, quelqu'un a exprimé comme ça, que Enoch a marché avec Dieu, était tellement loin de chez lui, que Dieu lui a dit, écoute, rentre chez toi, c'est très loin, viens chez moi. Et je trouve ça beau, que notre connaissance de Dieu aille plus loin. Que la connaissance de la parole aille plus loin. Amen. Mais aussi la connaissance de Dieu. Et le fait de vouloir le connaître mieux. Et là, notre connaissance est limitée. Et lorsque nous prophétisons, il est dit, nous prophétisons en partie, partiellement. Ça veut dire qu'il part un mélange dans une prophétie. Il y a trois esprits qui peuvent intervenir. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit humain et l'esprit du mal. C'est rare que dans un chrétien qui marche normalement avec Dieu, qu'il y ait le problème avec l'esprit du mal. Mais mon esprit et l'esprit de Dieu, je peux faire mélange. Je peux faire mélange qui permet à Dieu de s'exprimer. Dites-moi pourquoi on a quatre évangiles qu'il n'y a qu'un seul.
Parce qu'il y a quatre hommes.
Il y a quatre hommes qui sont très différents. Matthieu était percepteur d'impôts. Oui. Donc c'est normal, heureux, 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 heureux. C'est pas souvent que les percepteurs d'impôts disent ça. Heureux, malheureux, malheureux, malheureux. Et Matthieu fait référence toujours à l'Ancien Testament. Dans ma Bible en italique, on trouve les phrases de l'Ancien Testament que Matthieu est en train de citer. Que Jean, si vous lisez Jean, et vous lisez à partir du chapitre 13, et vous soulignez dans votre Bible le nombre de fois qu'il utilise le mot « Père », c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que pour lui, la paternité était très importante. être très important aussi dans ses écrits, parce que son frère était le premier, après Judas, à être tué. Rappelez. Oui, ça vous le savez. Oui, vous avez remarqué ça. Ah, moi, je ne sais pas comment il a vécu. Ça, c'est dans Actes. C'est chapitre 12. Vers ces temps-là, le roi Hérode porta les mains sur l'église, les membres d'église, pour les maltraiter. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est très difficile quand vous perdez un membre de la famille. Déjà quand vous perdez vos parents. Et vous imaginez que vous perdez votre frère aîné. Et lui, on n'en parle pas. Jean. Mais Jean est un homme de cœur. Je suis sûr que Jean, c'est pour ça que quand il parle du père, que Luc parle toujours des malades. Parce qu'il est médecin. Il parle toujours des malades. Et chacun apporte avec la personne qu'il est, qu'elle est, porte un regard différent sur la même vérité, sur la même personne, sur Jésus. Et vous et moi, selon la personnalité que nous avons, nous allons avoir un mélange entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que c'est partiellement que nous prophétisions. C'est pour ça qu'il faut que les paroles soient soumises à d'autres qui parlent et que les autres jugent. Donc je fais une distinction, comme j'ai dit, entre ceux qui ont ministère et ceux qui exercent le don. On va continuer la lecture dans 1 Corinthiens 14, verset 29, 30 et 31. Pour les prophètes, que d'autres croient parlent et que les autres jugent. À notre assistant, a-t-il une révélation que le premier se taise. C'est-à-dire qu'on n'est pas en état d'avoir perdu le contrôle parce que l'onction de Dieu est sur nous. Mais on est capable de se taire. Et puis, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Donc je reviens à ce passage. Donc ça veut dire que tout le monde peut prophétiser. Mais si vous n'aspirez pas, vous ne le ferez pas. Si vous aspirez à passer le CAPES, vous allez le faire. Vous allez faire les choses nécessaires pour le faire, n'est-ce pas? Mais si vous n'aspirez pas, vous n'y arriverez jamais. Donc, là, il est en train de répondre aux questions. Il parle des dons spirituels. Il y a les quatre types de dons, les quatre choses dans le don de prophétie, je m'insiste là-dessus. Vous recherchez l'amour inspiré au don spirituel, verset 14, chapitre 14, verset 1, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est par l'esprit qui dit les mystères. C'est pour ça que je dis un jour ou l'autre, il n'y aura plus de parler en langue, parce qu'on connaîtra le mystère. On n'aura pas besoin de dire les choses qu'on ne comprend pas. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les rend perplexes, les divise, les manipule. Non. Que dit la parole de Dieu? Il parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Si vous avez quelqu'un qui vous donne une parole de prophétie en vous condamnant, mettez ça à la poubelle. Si quelqu'un vous donne une parole en disant c'est de Dieu et vous condamne, mettez ça à la poubelle. J'ai vu des gens qui ont eu des paroles qui ont été données et c'est une condamnation. Moi, la parole de Dieu me dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avec toute parole de correction, il y a toujours un encouragement. Quand Dieu nous corrige, c'est quand la dernière fois que Dieu vous a donné une bonne claque? Non, il ne fait plus. Celui qui aime bien, vous connaissez le verset. Celui qui aime bien, pourquoi on corrige nos enfants? Parce qu'on les aime.
Parce qu'on les aime. Moi, mon fils, un jour, je devais le corriger. Je l'ai envoyé dans sa chambre. Je suis arrivé. Je dis, je vais te corriger. Il dit, je sais, papa. Il dit, tu sais pourquoi? Oui, papa, parce que tu m'aimes. Je dis, mets-toi en position. Tu es prêt à le faire. Il dit, papa, tu pourrais pas m'aimer un peu moins. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Et quelquefois, les gens disent, oh, c'est le diable qui m'attaque. C'est pas le diable, c'est Dieu. Si Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. S'il ne nous corrige pas, il n'y a pas d'enfant gâté avec Dieu. Même Jésus n'était pas un enfant gâté, n'était pas un fils gâté. Je ne fais que ce que je vois faire le Père, il a dit. Donc quand on parle de paroles prophétiques, si une parole qui vient te condamne, tu mets ça à la poubelle. Tu laisses de côté. Mais si la parole vient avec une correction, il doit toujours avoir un encouragement. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, Malachi, n'est-ce pas? Ou Malachi, ça dépend de la manière dont vous le prononcez. Il y a toujours une bénédiction qui vient derrière.